France Inter.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, il y a très longtemps en Grèce, les dieux aimaient bien qu'on les fasse rire. Ils aimaient bien que les humains organisent de grandes fêtes en leur honneur, où l'on pouvait rire de tout, des faiblesses des mortels, mais aussi des dieux, de leurs travers, leurs caprices, à condition que ce soit vraiment drôle et que les dieux en profitent et s'amusent, eux aussi. Les dieux grecs n'étaient pas des êtres coincés, ils avaient de l'humour. Ces fêtes avaient lieu au théâtre, plusieurs fois par an. Elles étaient somptueuses, pleines de couleurs, de bruit, de musique, de danse, pleines de fantaisie, d'intelligence, de réflexion, de jeux de mots, de rire.
Quand les dieux rôdaient sur la terre. Pierre Judet de Lacombe sur France Inter.
On donnait à ces fêtes le nom de comédie. Ce nom n'est à l'origine pas très chic. Comédie, en grec, komoidia, veut dire le chant que pousse un komos, c'est-à-dire une bande de jeunes, plutôt éméchés, rigolards et peu discrets, qui va en procession par les rues et les chemins, une clique bruyante de gens bourrés. Ces jeunes, célébrés par leur charivari bien sonore, le dieu de la fête, du vin, du délire, le joyeux et fantasque Dionysos. Ces cortèges comiques, où on faisait de l'esprit, où on insultait les gens qu'on rencontrait, ont été à l'origine d'une forme d'art très élaborée, la comédie, à savoir des spectacles grandioses, imposants et très coûteux. Mais ces spectacles officiels, organisés par la cité, n'ont rien perdu du mordant initial du komos, des bandes de jeunes. Ils gardaient une totale liberté d'esprit, de drôlerie et souvent de cruauté dans l'injure et la caricature, avec un goût prolongé pour l'obscénité. Devenue comédie, l'humour dionysiaque s'implantait au théâtre, face à la grande sœur aînée qu'était la tragédie. Parfois, pour rire et pour faire la nique à la tragédie, la comédie s'appelait elle-même trugédie, à savoir chant du vin nouveau ou de la piquette, une breuvagédie. Cet humour délirant et aviné était chez soi au théâtre. Dionysos, le dieu du vin, de la fête exubérante, de la folie, était aussi le dieu du théâtre. À Athènes, le théâtre a été construit dans une enceinte dédiée au culte de Dionysos. Le jeu théâtral est bien une forme de délire dionysiaque, puisque au théâtre, tout peut changer, se transformer tout de suite, comme on veut, selon les envies les plus fantasques. Tout y est possible. Un acteur peut se transformer en n'importe qui, n'importe quoi. Le même lieu peut devenir une ville, une plage, une montagne, une grotte. Des monstres, des dieux, des héros du passé, des fantômes peuvent apparaître, disparaître, comme on veut. On est bien chez Dionysos, le dieu perpétuellement instable, le dieu de l'illusion. Le théâtre, ce sanctuaire de la fantaisie, était tout proche du lieu le plus important de la ville d'Athènes, avec ses gradins d'abord en bois. Le théâtre a été établi sur les pentes mêmes de la citadelle d'Athènes, l'Acropole, juste en dessous du sanctuaire monumental dédié à la divinité protectrice de la ville, Athéna, la fille préférée de Zeus. La déesse avait là sa statue, au casque et à la lance d'or, dont l'éclat se voyait depuis la mer, et son grand temple, le Parthénon.
Zeus est là lui-même, et aussi Héra, sa femme jalouse, et encore Athéna, la plus rusée de toutes les déesses. Et si vous voulez mon avis, Zeus a mis trop souvent son nez dans son verre de nectar, et maintenant il a envie d'asticoter un peu sa femme.
Tiens, ma petite Héra, donnez-moi encore un coup à boire.
Chaque fois que tu te déguises en homme, je sais où te trouver. Je n'ai qu'à faire le tour des cabarets de la ville. Oh, écoute, je ne te demande pas grand-chose.
Écoute, je t'en supplie, ne commence pas à pleurnicher.
Vas-y, pleure.
Oh, je voudrais simplement que tu autorises Athéna à aller faire un tour sur le champ de bataille.
Et pourquoi faire?
Et pour qu'elle pousse simplement les Troyens à rompre la trêve.
Ah oui, ah, c'est ça, je vous vois venir.
S'ils le font, c'est qu'ils sont bêtes et c'est qu'ils méritent de perdre la guerre.
Oui, ah, le joli raisonnement, c'est une belle mentalité. Il n'y a que les femmes pour trouver des combines pareilles.
Le théâtre était tout proche de ce lieu sacré et éminemment politique. Mais il en était bien séparé. Pour aller au théâtre, on entrait chez Dionysos. On franchissait une limite. Les normes, les comportements habituels étaient abandonnés à l'entrée. On s'attendait à avoir des surprises. Au théâtre, tout était permis. Pour la comédie comme pour la tragédie. La comédie était simplement plus mordante et coriace. Il s'agissait de faire rire. Ceux qui écrivaient les scénarios pour les fêtes comiques, les poètes, pouvaient s'en prendre violemment aux hommes politiques du moment, dénigrer les défauts des gens normaux ou pas normaux, les ambitions des savants, des autres poètes. Ils pouvaient aussi s'amuser à mettre les dieux et les déesses dans des situations incongrues, totalement nouvelles, improbables. Si c'était bien fait, tout le monde riait. Et même le grand prêtre de Dionysos devait rire, lui qui siégeait au premier rang et qui apportait sa caution divine au spectacle. Les spectateurs pouvaient décréter si un spectacle avait marché ou non. Ils jugeaient et classaient par leur vote les pièces qu'ils avaient vues et entendues. On riait beaucoup au théâtre, même quand la situation de la cité n'était pas drôle. La comédie restait un moyen d'échapper aux dangers du moment. On était libre pendant le spectacle. On pouvait changer de monde. Et les poètes, à qui la cité commandait un texte pour un spectacle, ne se privaient pas de déconnecter les spectateurs du poids de leurs soucis. Ils le faisaient avec une totale liberté, mais pas pour rien. Ce n'était pas en l'air. En faisant rire les spectateurs, les poètes ne se privaient pas de ridiculiser leurs préjugés, leurs habitudes. Ils les dérangeaient, les désencroûtaient et les poussaient à voir autrement la réalité dans laquelle ils vivaient tous les jours. Pas pour faire la révolution, mais simplement pour déplacer, libérer le regard. Pas en faisant la leçon, mais en faisant rire pendant des heures, en donnant du plaisir.
Sylvia Milanesi, professeure d'histoire grecque à l'université.
Le rire, c'est une sorte de libération, c'est la catharsis. Au sens philosophique, c'est une purge des mauvais sentiments, une purge des angoisses. Et donc, c'est un moment où on se dit « Ouf, je respire !» Et donc, en enseignant aux Athéniens, en montrant ce qui ne va pas, peut-être un jour prendront-ils conscience qu'ils peuvent changer.
Après les femmes guerrières dont nous avons parlé, les Amazones, et leur reine, la fière et grandiose Penthésilée, pourquoi ne pas les voir au théâtre de Dionysos à Athènes? Des femmes qui, à l'inverse, sont radicalement contre la guerre, qui la combattent. Ces femmes le font avec tant de détermination, de courage et de force, que leurs pauvres adversaires, les belliqueux, tous masculins, les considèrent comme des Amazones qu'il faudrait combattre, comme les Athéniens autrefois ont combattu et vaincu les Amazones qui avaient déferlé chez eux.
Femmes d'Athènes, écoutez-moi bien. Lorsque vos maris ou vos amants, quelquefois les deux, reviennent goûter pendant quelques jours les plaisirs d'une paix éclair, ils vous demandent de leur donner ce que seul vous pouvez leur donner. Le meilleur de vous-même, le meilleur et le pire. Et le lendemain, épuisés mais repus, ils repartent pour une guerre dont ils ne reviendront peut-être pas. Et vous vous retrouvez de nouveau seul dans votre lit désert. Eh bien, il ne faut plus vous prêter ainsi au délassement des guerriers. Refusez-vous, résistez à leurs assauts et interdisez-leur l'accès de votre personne.
Ces nouvelles Amazones combatives, ces femmes qui luttent contre la guerre, sont libres, souveraines, le temps d'un spectacle. Et contrairement aux Amazones de la légende, elles sont victorieuses. La guerre s'arrête. Ces femmes anti-hommes étaient jouées par des hommes. Tous les acteurs dans le théâtre grec étaient masculins. On ne se refait pas. Ce travestissement où des hommes acteurs jouant des femmes sont amenés à critiquer les hommes de la ville qui n'arrêtent pas de faire la guerre, a dû demander à tout le monde, acteurs, spectateurs, un sacré effort de décentrement, de libération. Le rire comique devait y aider. Il s'agit d'une comédie de ce poète fabuleux qu'est Aristophane, l'auteur comique athénien, dont il nous reste 11 pièces sur la quarantaine qu'il a écrites. Athènes, était alors en pleine guerre contre Sparte. Une guerre, ou plutôt une série de guerres, commencée une vingtaine d'années plus tôt. Cette guerre divisait férocement toute la Grèce. Les deux cités ennemies avaient rassemblé autour d'elles d'autres cités qui s'étripaient. Aristophane a écrit contre cette guerre une pièce qui porte le nom de son héroïne principale, Lysistrata, un nom bien clair. Il signifie « la femme qui dissout l'armée », tout simplement. Dans la pièce, cette Lysistrata a rassemblé des femmes de toute la Grèce pour arrêter la guerre fratricide entre les cités grecques. Elles sont toutes là, ses amies athéniennes, mais aussi des femmes de Sparte et d'autres grandes villes, Corinthe, Thèbes. Lysistrata a déclenché une action énergique, radicale, qui va mettre fin à la guerre, enfin, dans la pièce. Avec ses amis, elle va triompher. La paix sera rétablie entre les villes grecques. En fait, dans la réalité, la guerre va continuer encore pendant 8 années et finir sur la défaite d'Athènes. Mais on n'en est pas encore là. Au moment de la représentation de cette comédie, Lysistrata, nous sommes dans l'hiver de l'an 411 avant Jésus-Christ, en février. Lors des années précédentes, Athènes a subi 2 grands désastres. Athènes a voulu étendre le conflit contre Sparte en lançant une immense expédition en Sicile. Le but de guerre étant de vaincre la grande ville de Syracuse, amie de Sparte, et de se faire de nouveaux alliés là-bas. L'aventure, énorme, a très mal tourné pour Athènes. L'armée athénienne est lourdement défaite en l'an 413. Les soldats athéniens prisonniers sont enfermés dans des carrières de pierre à Syracuse. Leurs conditions de détention sont effroyables. On dit que pour survivre et obtenir un peu de nourriture, les soldats athéniens étaient obligés de chanter des chants tirés des tragédies d'Euripide.
Il y a plus de 60 ans que nous sommes en guerre contre Sparte. Plus de 60 années que nous défendons la liberté contre ceux qui veulent asservir les autres.
C'est sans doute pour cela que nous avons été vaincus à Dalion, à Mantinée, à Syracuse et en Égypte.
Imbécile! Les défaites dont tu parles ne sont que des victoires déguisées, des victoires à retardement, des défaites préméditées par nos stratèges pour déconcerter l'ennemi. Ne cédons pas de pénétrer les secrets desseins de nos grands capitaines.
On croit qu'ils reculent, ils se replient.
Deuxième désastre. Les Spartiates occupent un lieu stratégique tout près d'Athènes, à peine plus d'une 20 kilomètres de la ville, le fort de Décélie. Ils en font la base de leurs opérations. Les Spartiates organisent le blocus d'Athènes. 20 000 esclaves athéniens s'enfuient. L'historien Thucydide, qui a vécu tous ces faits, témoigne de la faiblesse d'Athènes.
Athènes se voyait privée de tout le pays. Plus de 20 000 esclaves, des artisans en grande partie, avaient passé à l'ennemi. Tous les troupeaux étaient perdus, ainsi que les bêtes de somme. Et quant aux chevaux, comme la cavalerie faisait chaque jour des sorties, soit pour pousser des raids contre Décélie, soit pour patrouiller dans la campagne, ou bien sur ce sol dur, où ils étaient toujours à la peine, ils s'estropiaient, ou bien ils se faisaient blesser. En outre, le transport des ravitaillements venant d'Eubée s'opérait par mer, en doublant le cap Sounion, et devenait très onéreux. Or, tout était au même titre objet d'importation pour la ville. Ce n'était même plus une ville, mais une place sur la défensive.
Mais tout n'était pas perdu. Athènes réagit très vite. Pour simplifier les procédures de la décision politique et faire rapidement face aux urgences, les citoyens créent un corps de 10 commissaires, autorisés à court-circuiter des instances habituelles. Nous aurons affaire tout à l'heure à l'un de ces commissaires qu'Aristophane met en scène. Il s'en sortira très mal.
Oh, va, va, va. Ba 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 ba. Guarda lì, dai treni in corsa si sbilanciano, in canottiera ti sorridono. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra illusa Napoli, e poi sgridata Minneapoli. Comedy, comedy, don Giovanni, ta da da dum, ta da ta dum, ta da ta da ta ta da ta, ta da ta da ta ta dum. La comédie d'un jour, la comédie de ta vie, la comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Ba 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 ba. Ba 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 ba. Parlami, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce d'infelice qui. Comedy, comedy, comedy. Ah, comedy, comedy orchestra che precipita in un ventilatore al Grand Hotel. Comedy, comedy d'un jour. Za taradam, tadam, tadaritatatam. Taratatatatam. La comédie d'un jour. La comédie de ta vie. La comédie, la comédie, la comédie, la comédie. Va 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 va.
France Inter, quand les dieux rôdaient sur la terre.
Pierre Judet de la Combe raconte comment les femmes ont pris l'acropole d'Athènes pour arrêter la guerre.
Anne Lebeau, maître de conférence.
Le théâtre grec a dès ses origines instauré ce dialogue entre la comédie et la tragédie. Et je crois que ça s'explique d'abord historiquement parce que la comédie est née après la tragédie et s'est inspirée de la tragédie pour se construire, pour s'édifier comme genre littéraire autonome. Donc, d'entrée de jeu, la comédie apparaît comme une sorte de rivale en puissance de la tragédie. Et effectivement, ce que veut faire Aristophane, c'est manifester de diverses façons à quel point la comédie a le droit de revendiquer une position, un impact, une importance poétique et politique égale à celle de la tragédie.
Athènes disposait d'une grande flotte, basée à l'île de Samos, au large de l'Asie mineure. Il y avait de l'argent entreposé dans le temple d'Athéna sur l'Acropole. Un effort de guerre était possible. Et de fait, Athènes pouvait espérer encore redresser la situation. Les partisans d'une continuation de la guerre étaient donc encore nombreux. La ville était affaiblie, usée, mais elle ne voulait pas céder. Argumenter pour la paix n'était pas une chose aisée. C'est pourtant ce que tente Aristophane, en inventant une histoire vraiment dingue, inattendue. Le public a dû être estomaqué. Une révolte des femmes grecques fait arrêter en quelques heures la guerre terrible que mènent depuis des années les hommes de toute la Grèce. D'abord, Aristophane invente comme personnage principal de sa pièce, comme instigatrice de toute l'action anti-guerre, une femme dont on ne sait rien, Lysistrata.
Si nous voulons vraiment la paix, nous devons nous battre jusqu'au dernier spartiate. Plus d'ennemis, plus de guerre.
Alerte à moi! Au secours! Alerte à moi! Oh, oh, quel métier!
Eh bien, que se passe-t-il, vaillant Georgias?
L'ordre public, il n'y en a plus. La rue est à l'émeute. Heureusement que j'ai eu l'idée de fuir.
Il pourrait y avoir des meutes. Le peuple est à la guerre. Eh bien, il faut agir, oui. Vite!
Où sont-ils?
Ils viennent, ils arrivent. Leur troupe de damnés marche sur l'assemblée.
Qui les commande?
Lysistrata.
Dans la pièce, elle n'a pas d'histoire, pas de famille, pas de statut. On voit seulement qu'elle est autoritaire, qu'elle prend des initiatives très risquées et qu'elle réussit. Tout son rôle tient à son nom, Lysistrata, celle qui dénoue l'armée, qui la dissout, la maîtresse impérieuse de la débandade. Mais le nom Lysistrata évoquait quelqu'un de bien connu pour le public athénien. Et cela déjà est une grande surprise. La plus grande prêtresse de la déesse Athéna, la plus prestigieuse, celle qui présidait le culte de la déesse principale d'Athènes, s'appelait à l'époque de la pièce Lysimachée, celle qui dénoue le combat, qui recherche la paix. Un nom qui ressemble à s'y méprendre, à Lysistrata. Cette prêtresse très honorée habitait sur l'acropole. Elle avait en charge les grands cultes rendus à la déesse Athéna. Elle était la représentante vivante de la déesse. C'est en pensant à elle, à ce personnage plus que légitime, plus qu'officiel à Athènes, qu'Aristophane a inventé sa Lysistrata. Il y a là un pied de nez, un vrai choix comique. Lysistrata, celle qui va dénouer les armées grecques, qui va débander les régiments et imposer la paix, est une rebelle. Elle s'oppose à la politique de sa ville, aux décisions bellicistes de la grande majorité des hommes politiques qui veulent continuer la guerre à tout prix. Or, cette Lysistrata a été composée à l'image de la femme athénienne la plus prestigieuse, la plus officielle d'Athènes. Lysistrata est une rebelle, mais dit Aristophane, c'est elle, la femme insurgée, la révoltée, qui représente le mieux ce qu'est réellement Athènes, la ville qui s'est mise sous l'autorité d'une femme, la déesse Athéna. La preuve, elle porte presque le même nom que la grande prêtresse d'Athéna. On va assister à un événement incroyable. Les femmes en révolte vont s'emparer du sanctuaire d'Athéna. On va assister à une prise de l'acropole par les femmes, comme il y a eu chez nous la prise de la Bastille. Mais cela, sous l'autorité de la prêtresse officiellement titulaire de l'acropole. Comment va faire Lysistrata ? Ce sera toute une stratégie, elle aussi incroyable. L'Athénienne, qui ressemble tellement à la prêtresse d'Athéna, la déesse toujours vierge, jamais amoureuse, va faire massivement intervenir dans son intrigue la déesse du désir, de la sexualité, Aphrodite l'enjôleuse, la séductrice, l'exact contraire d'Athéna, son ennemi habituel. Aphrodite, ou plutôt une Aphrodite vraiment bizarre, va faire cesser la guerre, avec l'aide d'Athéna. La pièce commence, comme souvent au théâtre, au petit matin. La scène montre l'entrée du sanctuaire d'Athéna, les portes de l'acropole, les propylées, avec à côté une grotte sombre, où il se passera bien des choses. C'est déjà drôle. Le véritable acropole, les vrais propylées, la vraie grotte ne sont pas loin, juste dans le dos des spectateurs. Lysistrata s'impatiente. Elle a demandé aux Athéniennes de venir pour une affaire plus qu'importante. Il n'y a encore personne. Une voisine va finir par arriver. Elle porte un beau nom, Kalonike. Belle victoire.
Lysistrata.
Ah là là, si on les avait conviés à une bacchanale, ou au sanctuaire du dieu Pan, ou d'Aphrodite, on n'aurait même pas pu avancer à cause de tous leurs tambours, alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas la moindre femme ici. Exception faite, pardon, d'une femme de mon quartier qui arrive. Bonjour, Kalonike.
Kalonike.
À toi de même, Lysistrata. Qu'est-ce qui te chiffonne ? Ne prends pas cet air sombre, mon petit. Arquer les sourcils ne te va pas du tout.
Lysistrata.
Mais c'est que j'ai des brûlures d'estomac, Kalonike, et j'en ai vraiment par-dessus la tête que nous autres, les femmes, nous avons chez les hommes la réputation d'être des gredines.
Kalonike.
Pardi, c'est bien ce que nous sommes.
Lysistrata.
Et quand on donne à ces dames rendez-vous ici pour délibérer d'une question qui n'est pas dénuée d'importance, elles restent au lit et ne viennent pas.
Kalonike.
Mais ma chérie, elles vont venir. Les femmes ont des difficultés pour sortir, tu sais. L'une doit se pencher sur son mari, une autre réveiller une esclave, une autre a son bébé à recoucher, une autre à le torcher, une autre à le nourrir.
Lysistrata.
Oui, mais il y avait d'autres choses plus utiles que ça à faire pour elle.
Kalonike.
Mais quelle est cette raison, ma chère Lysistrata, qui peut bien te pousser à nous convoquer, nous, les femmes ? Quelle est cette affaire ? De quelle dimension ?
Lysistrata.
Grande.
Kalonike.
Serait-elle dodue par hasard ?
Lysistrata.
Oui, par Zeus, dodue aussi.
Kalonike.
Et nous ne sommes pas là. Comment ça se fait donc ?
Lysistrata.
Ce n'est rien de ce genre. Sinon, oui, nous serions vite réunis. Non. Il s'agit d'une affaire que j'ai soupesée et agitée durant de nombreuses nuits blanches.
Kalonike.
Elle doit être toute fine, non ? À force d'avoir été agitée.
Lysistrata.
Oui. Si fine que c'est le salut de toute la Grèce qui dépend des femmes.
Kalonike.
Des femmes ? Alors c'est qu'il ne tenait pas à grand-chose.
Petit à petit, des femmes arrivent, de toute la Grèce. Il y a même une Spartiate qui entre en faisant de la gymnastique. Les femmes de Sparte sont sportives, bien musclées, plus que les Athéniennes. Ces femmes sont impatientes de savoir quel moyen Lysistrata a trouvé pour arrêter la guerre. D'abord, Lysistrata leur fait avouer que leurs hommes leur manquent. Ils sont tous partis à la guerre. Et même chose pour les amants, qui ne peuvent donc pas remplacer les maris.
Lysistrata.
Ne vous manque-t-il pas les pères de vos bambins qui sont en campagne au loin ? Je sais bien que vous avez toute votre mari absent du foyer.
Calonique.
C'est vrai. Le mien, par exemple. Voilà 5 mois, ma pauvre chérie, qu'il est au loin, en Thrace. Il surveille son général.
Myrine.
Et le mien, ça fait 7 bons mois, à Pylos.
Lysistrata.
Et il ne reste plus la moindre escarbille d'amant.
Puis, pressé de questions, Lysistrata doit exposer son plan et dire comment les femmes vont contraindre leur mari à ne plus faire la guerre. Lysistrata hésite, mais la réponse est finalement simple, radicale, en cessant de coucher avec leurs hommes. Une bonne et belle grève de l'amour conjugal, sans concession.
Lysistrata.
Je n'ai plus de raison de garder le secret. Le voici. Nous devons, mesdames, si nous voulons forcer les hommes à faire la paix, nous passer de...
Calonique.
De quoi parle ?
Lysistrata.
Vous le ferez alors ?
Calonique.
Nous le ferons même au prix de notre vie.
Lysistrata.
Eh bien, nous devons nous passer du membre.
La proposition suscite d'abord le rejet le plus vif. Les femmes sont farouchement contre.
Lysistrata.
Pourquoi me tournez-vous le dos ? Où allez-vous ? Pourquoi faites-vous la grimace et secouez-vous la tête ? Dites-moi ! Pourquoi pâlissez-vous ? Pourquoi versez-vous une larme ? Vous le ferez ou vous ne le ferez pas ? Quelles sont vos intentions ?
Calonique.
Je ne le ferai pas. Que la guerre suive son cours.
Myrine.
Tout ce que tu veux d'autre, tout, je consens, même au besoin, à traverser le feu pieds nus. Oui, plutôt que le membre. C'est qu'il n'y a rien de mieux, ma chère Lysistrata.
Mais la femme spartiate, plus avisée que les autres, et surtout plus affectée par la guerre qu'elle conduit depuis tant d'années contre Athènes, accepte. Elle entraîne les femmes des autres villes. La proposition de Lysistrata est finalement approuvée. Il faut dire que ces arguments sont plutôt convaincants. Il ne s'agit pas de bannir tout désir et tout amour entre les époux. Au contraire, il s'agit pour les femmes d'être hyper sexy, de manière à créer une belle envie chez les hommes. Et au dernier moment, elles devront se dérober. Les pauvres hommes seront exaltés et ne pourront pas se contenter de se bricoler des compensations de fortune. Car on sait que l'amour partagé, consenti et total est celui qui donne le plus de plaisir.
Et tu ne sais pas ce que c'est, toi, que de vivre 34 longues nuits sans toi, jour non compris. Aphrodée, réponds, dis-moi quelque chose. Pourquoi ce rideau de bronze entre nous ? Et tu n'es pas une femme du peuple, toi. Cette guerre ne t'atteint pas. Alors de quoi te plains-tu ? Et si ma fabrique d'armes ferme ses portes, qui t'offrira ces bracelets, ces pendentifs et ces diadèmes qui donnent tant de prix à ton corps, Aphrodée ? Mon enfant, aux yeux du pis, faisons un échange. Que veux-tu que je te donne contre toi ? Des pendants d'oreilles, un collier, hein ? Quoi ?
La paix, mon chéri.
Les pauvres mâles sont alors prêts à tout pour que leurs femmes les aiment, même à signer un traité de paix avec leurs ennemis. Le langage de la séduction amoureuse et de ses ruses, sous la houlette d'Aphrodite, va donc déferler sur l'Acropole, sur le lieu consacré à Athéna, la déesse toujours vierge, anti-amour, anti-plaisir par excellence. C'est renversant. Et en plus, c'est une héroïne qui porte presque le même nom que la grande prêtresse d'Athéna qui va être à l'origine de tout cela. Et ça va marcher. Athéna pense d'abord à la grandeur et au bonheur de sa ville. Elle est pour la paix et pour tous les moyens d'y arriver, quels qu'ils soient. Les femmes se sont mises d'accord. Elles feront la grève de l'amour conjugal. Pour être sûres de leur coup, elles doivent s'engager par un serment solennel. N'ayant pas d'animal à sacrifier sous la main, elles jurent par une cruche de vin, du meilleur vin qui vient de l'île de Thasos. Elles jurent de rester chastes et pures, mais de se maquiller, de s'habiller de manière affriolante, et d'éloigner tout mari ou tout amant qui afficherait son désir. Si elles sont fidèles à ce serment, elles pourront boire du vin. Sinon, la cruche se remplira d'eau. Elles jurent.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe. Thank you.
de la Combe évoque la grève de l'amour menée par les femmes grecques contre la guerre.
Quoique femme, je n'ai pas la langue aussi bien pendue que les bavards professionnels qui pérorent habituellement dans cette enceinte pour le plus grand malheur de la cité.
Oh, femme, créature superficielle et vaine, n'insulte pas la patrie.
Que veux-tu ?
Je veux la paix, crétin. Et c'est au nom des femmes d'Athènes que je parle. Nous sommes lasses de cette guerre stupide, de ces défaites, de ces victoires alternées. Nous avons assez de héros, assez de morts, assez de gloire, assez de personnages historiques. Vivre heureux, faire l'amour tranquillement, en prenant tout notre temps. Voilà ce que nous demandons. Nous exigeons la cessation immédiate des hostilités. À bas la guerre et vive la vie!
Lysistrata a donc gagné cette partie de sa stratégie. Les femmes sont avec elle. Enfin, les femmes jeunes. Les plus vieilles qui, croyait-on, accompliraient difficilement cette mission de séduction et d'abstinence volontaire, réalisent une autre partie du plan de Lysistrata. Elles ont été envoyées au combat d'une autre manière, également dévastatrice pour les hommes. Lysistrata les a chargées d'occuper le sanctuaire d'Athéna, où était entreposé l'argent nécessaire au réarmement d'Athènes. Ces femmes ont pris place. Elles ont confisqué l'argent et ont barricadé l'entrée de l'acropole, les propylées, en verrouillant les portes. C'est la stupeur chez les hommes d'Athènes, qui sont privés des ressources financières nécessaires à la poursuite de la guerre contre Sparte. Un cœur de vieux Athéniens, des vétérans, attachés aux bonnes vieilles valeurs belliqueuses de la démocratie, en souvenir des guerres victorieuses menées autrefois contre les invasions perses, entrent en scène, avec la ferme intention d'ouvrir ses portes par la force et de récupérer l'argent. Ces hommes sont scandalisés.
Vrai, que de surprises nous ménage une longue vie. Horreur. Ainsi, qui aurait pu s'attendre à ce que l'on annonce un jour que les femmes, notoires fléaux que nous nourrissons dans nos maisons, tiennent la sainte idole d'Athéna, occupent notre acropole et qui plus est, avec des verrous et des barres, condamnent les propylées.
Ces hommes portent des torches pour mettre le feu à ces portes. Les femmes, tout simplement, arrosent ces vieillards pour qu'ils reverdissent, prétendent-elles, mais tout simplement pour les éteindre. Réfrigérés, les vieux ont la tremblote. Arrive un grand responsable politique, un de ces 10 commissaires nouvellement nommés et chargé de régler promptement les affaires urgentes de la ville. Ça devient très sérieux. Le commissaire débarque, entouré de policiers, des archers barbares, des scythes, qui étaient à Athènes chargés de rétablir l'ordre. Les femmes ne se laissent pas impressionner. Commence une bagarre digne de l'épopée qu'a connue le marché de Brive-la-Gaillarde, quand des femmes se sont battues contre les forces de l'ordre à propos de bottes d'oignon. Les archers sont vaincus et doivent rabaisser piteusement leurs prétentions. Le commissaire en est réduit à discuter avec Lysistrata et à écouter ses arguments. Il est complètement affolé par ce qu'il entend. Pire encore pour lui, les femmes pour l'éduquer s'ingénie à le transformer en femme.
Lysistrata.
Si donc, quand nous disons des choses sensées, vous acceptez d'écouter à votre tour et vous taisez à votre tour, comme nous le faisions, nous vous remettrons sur le droit chemin. Le commissaire.
C'est écœurant ce que tu dis là. Ça m'est intolérable. Lysistrata.
Tais-toi, le commissaire.
Moi, me taire devant toi, espèce de maudite, et en plus quand tu portes un voile autour de la tête, plutôt tomberais de mort. Lysistrata.
Eh bien, si c'est ça qui te gêne, je te donne ce voile. Tiens, enroule-le autour de ta tête et puis tais-toi.
Kalonike.
Prends aussi cette corbeille à ouvrage.
Lysistrata.
Et puis ajuste ta robe, tisse et mâchouille des fèves. Les femmes se chargeront de la guerre.
Lysistrata a alors l'occasion d'expliquer pourquoi les hommes de la ville doivent s'inspirer de ce que savent faire les femmes. C'est dans le travail féminin, à la maison, que se trouve le vrai modèle de la politique. Quand les femmes transforment la laine brute en fil pour préparer le tissage, elles font ce que tout homme politique devrait savoir faire avec sa cité. Le commissaire prend d'abord les femmes de haut, comme le font d'habitude les responsables politiques et les experts fiers de leurs compétences. Il évoque la complexité extrême des problèmes diplomatiques, militaires, économiques à traiter. Ce ne peut être, selon lui, que l'affaire des hommes. Les femmes qui restent à la maison, par définition, n'y entendent rien, pense-t-il. Lysistrata lui démontre l'inverse. Le vrai modèle de la politique est féminin.
Comment pourrez-vous donc mettre fin à tout cet emmêlement de problèmes dans nos contrées et les débrouiller ?
C'est très simple.
Comment ? Explique.
C'est comme avec notre écheveau. Quand il est emmêlé, nous le prenons ainsi. Nous le dégageons des fuseaux, un coup par-ci, un coup par-là. C'est comme cela que cette guerre, nous la débrouillerons ainsi. Si on nous laisse faire, en tiraillant avec des ambassades, un coup par-ci, un coup par-là.
Alors c'est avec vos pelotes, vos écheveaux et vos fuseaux qu'à ces terribles problèmes vous pensez mettre fin, bande d'insensés.
Oui. Et si vous aviez de la cervelle là-dedans, vous prendriez toujours nos pelotes en exemple pour mener votre politique.
Comment ça, voyons voir.
D'abord, il faudrait procéder comme pour une laine écrue. Plonger dans un bain pour débarrasser la cité de son suint, puis étendre sur un lit afin d'éliminer les saletés à coups de baguette et d'ôter les piquants, spécialement ceux qui se regroupent et qui s'agglutinent au sommet. Cela, il faudrait bien les carder et leur arracher les têtes. Ensuite, faire tomber avec le peigne dans une corbeille tous les hommes de bonne volonté, pêle-mêle. Les métèques, les étrangers qui sont nos amis, et les débiteurs du trésor public, et tous les mélanger dedans. Quant à toutes les cités peuplées de colons venus de cette terre, nom de Zeus, il faudrait considérer qu'elles sont pour nous des sortes de boudins de laine qui gisent chacun de leur côté. Et alors, ramasser tous leurs boudins, les tirer ici, les rassembler en un seul, là-dessus faire une énorme masse de laine, et enfin tisser avec elle un manteau pour le peuple.
La politique est affaire de tri entre les bonnes et les mauvaises volontés, de manière à se débarrasser des ambitieux qui n'ont qu'une idée en tête, accéder au poste supérieur. Puis la politique est affaire de mélange, pour rassembler les gens utiles, qu'ils soient athéniens ou étrangers, exilés, alliés, qu'importe, et même les citoyens qui ont été privés de leurs droits parce qu'ils étaient en dette avec l'État. Ce n'est pas le statut qui compte, mais l'utilité des personnes. Le commissaire ne trouve rien à répondre. Il pense que ne peuvent traiter politiquement de la guerre que ceux qui la pratiquent, qui en font l'expérience. Lysistrata lui répond sèchement qu'il y a une expérience féminine de la guerre, et elle est très dure.
Le commissaire.
C'est quand même révoltant, non ? Qu'elles règlent tout ça à coups de baguettes et de pelotes, alors qu'elles n'ont pas pris la moindre part à la guerre.
Bien sûr que si, espèce de sale type. Elle nous pèse largement deux fois plus qu'à toi. Avant tout, tiens, nous avons fait des enfants que nous avons envoyés comme soldats.
Tais-toi, ne m'en parle pas.
Et quand nous devrions goûter au plaisir et jouir de notre jeunesse, nous couchons toutes seules à cause des campagnes militaires. Dans notre cas passe encore, mais je me désole pour les jeunes filles qui vieillissent dans leur chambre.
Les hommes, eux, ils ne vieillissent pas.
Mais grand Dieu, tu compares des cas différents. Quand un homme revient, même s'il a des cheveux blancs, il épouse vite une gamine. Mais pour une femme, la saison est brève, et si elle ne peut pas en profiter, personne ne veut plus l'épouser, et elle reste à consulter les présages.
Le commissaire croit malin de répondre que tant qu'un homme est en état de désirer, il a le droit de vivre comme il veut. Mais les femmes anticipent sur sa décrépitude à venir et le coiffent d'une couronne des morts. Le commissaire s'en va, en maugréant. Voilà, les hommes athéniens ne pourront pas déloger les femmes qui ont pris possession du trésor de guerre dans le temple d'Athéna. Les partisans de la guerre seront sans ressources.
Some levels come in today, is always on our way out. I love you, baby, but it seems we've been stuck in a drought. The storm is coming, but you still somewhere having your doubts. Guess you've been waiting all the time, but you can't get your time back. You are the remembered thing, for you live to regret that. Now you go front on me. Now you go front on me. Now you go front on me. Me. How you gon' front on me?
don't wanna let you go. I'm gonna let you go, go, go. I'm gonna miss you, baby. I'm gonna miss you so. Don't wanna let you go. I'm gonna let you go, go, go.
Pierre Judet de la Combe raconte comment les femmes ont pris l'acropole d'Athènes pour arrêter la guerre.
M'apportes-tu la paix, oui ou non?
Presque.
Oui ou non?
Écoute-moi, Lysistrata.
La paix d'abord, l'amour ensuite.
Tu as par ton exemple démoralisé et l'armée et les civils. Eh bien, ça c'est un crime qui relève de la hache. Je t'offre une occasion pour te racheter. Une fois pour toutes, je te somme de céder immédiatement et sans délai pour l'édification du peuple athénien.
Non ! Je ne violerai pas mon serment.
Et la grève de l'amour, tient-elle bon ? Les femmes sont-elles fidèles à leur engagement ? Aussi dur soit-il à observer. Lysistrata commence à repérer les défections. Certaines femmes quittent l'acropole et vont rejoindre leurs maris, qui n'en peuvent plus.
Lysistrata.
Moi, en tout cas, je ne peux plus les tenir loin de leurs hommes. Elles décampent, vois-tu. J'ai surpris la première, tiens, qui négociait son ouverture du côté de la grotte de Pan. Une autre se laissait glisser à l'aide d'une poulie. Une autre qui tournait casaque jusqu'à une autre qui, à califourchon sur un moineau, était prête hier à jouer la fille de l'air pour atterrir chez Orsilochos, le chef de bande. Je l'ai attrapée par les cheveux. Elle saute sur tous les prétextes pour retourner chez elle.
Une femme qui s'appelle Myrine, ça veut dire la petite mûre, dit qu'elle doit absolument rentrer à la maison car elle doit accoucher. Elle ne peut donc pas rester dans un lieu sacré. Le problème, c'est que la veille, elle n'était pas enceinte.
Myrine.
Oh déesse, sage-femme souveraine, suspend l'accouchement jusqu'à ce que j'atteigne un lieu profane.
Lysistrata.
Qu'est-ce que c'est que ces sornettes ?
Myrine.
À l'instant, je vais accoucher.
Lysistrata.
Mais hier, tu n'étais pas enceinte.
Myrine.
Eh bien, aujourd'hui, je le suis. Laisse-moi rentrer chez moi, trouver la sage-femme, Lysistrata, sans perdre un instant.
Lysistrata.
Qu'est-ce que tu racontes ?
Elle lui tâte le ventre.
Qu'as-tu de dur, là ?
Myrine.
C'est un garçon.
Lysistrata.
Mais non, par Aphrodite, ce n'est qu'un objet de bronze creux que tu as l'air de porter. Je vais bien voir.
Elle sort un gros casque de sous la robe de Myrine.
Espèce de nigaude, c'est le casque sacré d'Athéna que tu portes. Et tu te prétendais enceinte.
Puis, c'est le mari de Myrine qui ne s'avoue pas vaincu. Il est échauffé, impatient, et vient retrouver sa femme sur l'acropole. Il lui propose une belle nuit dans la grotte du dieu Pan, sur le flanc de la colline sacrée. Pan est un dieu très intéressé par l'amour. Cette fois, Myrine ne cède pas. Elle fait seulement semblant de céder. Ils vont tous les deux dans la grotte, qui n'est pas très accueillante pour un amour. Myrine dit qu'il leur faut un lit.
Kinésias.
Tu m'aimes ? Alors pourquoi ne viens-tu pas te coucher, ô Myrinette ? Myrine.
Grand Nigo, devant le bébé ?
Grand Dieu, non.
Bon, alors je vais nous chercher un sommier.
Mais non, par terre, ça nous suffira.
Ah non, par Apollon, pas question que je te fasse coucher par terre, même avec ton tempérament.
En vérité, cette femme même, c'est évident.
Puis, elle dit qu'il leur faut un matelas. Elle sort et va chercher un matelas. Puis il faut un oreiller, et enfin une couverture. À chaque fois, elle sort et revient. Mais au dernier moment, elle dit qu'il faut que son mari soit parfumé. Elle sort et revient avec un flacon, mais se trompe de parfum. Elle a rapporté un parfum de mauvaise qualité qui vient de l'île de Rhodes. Rhodes, à ce moment, avait trahi Athènes. Myrine réapparaît avec un autre parfum, puis tout d'un coup, elle disparaît. L'homme est seul.
Ma femme m'a tué. Elle m'a assassiné.
La grève de l'amour est un succès total. À Athènes et partout en Grèce, les hommes n'en peuvent plus. Une gigantesque érection emporte toute la Grèce masculine. C'est la levée en masse. L'ardeur des hommes les épuise. Ils n'arrêtent pas de porter haut les armes de l'amour, sans aucun résultat. La frustration gronde. Des Spartiates, arborant tous les signes de la passion insatisfaite, arrivent à Athènes, avec leur ambassadeur en tête, dans le même état qu'eux. Pour traiter avec lui, arrive l'ambassadeur d'Athènes, armé de la même manière, impressionnante. Lysistrata n'attendait que ce moment. Elle fait apparaître devant les corps diplomatiques ainsi déployés une jeune fille, dans le plus simple appareil, ou presque, incroyablement belle. Cette jeune fille est censée incarner la déesse Réconciliation. Les deux ambassadeurs, l'Athénien et le Spartiate, sont stupéfaits à la vue de ses charmes et de son merveilleux arrière-charme. Ils font, en maugréant à peine, toutes les concessions qu'ils refusaient d'accorder depuis des années. La paix est conclue. Les Istrata invitent les ambassadeurs à un festin, à une grande fête sur l'Acropole, ce qui est contraire à toutes les règles. Le sanctuaire d'Athéna étant un lieu de pureté et non de beuverie. Mais là, l'enjeu est énorme. La paix, tout simplement. Athéna ne peut qu'être contente. Les ambassadeurs sont heureux. Le chef de la diplomatie athénienne en tire une nouvelle règle pour toutes les négociations à venir. Il déclare que désormais, il n'entrera en pourparlers avec les représentants des puissances étrangères que s'il est bourré. C'est, dit-il, le meilleur moyen d'arriver à un bon arrangement.
L'ambassadeur athénien.
Pareil banquet, je n'ai jamais vu ça. Vraiment, même les Spartiates étaient charmants. Et nous, des compagnons de beuverie impeccables.
Strémodor.
C'est logique, oui. Puisque sobres, nous ne sommes pas sains d'esprit.
L'ambassadeur athénien.
Si je réussis à convaincre les Athéniens de mon point de vue, c'est toujours ivre que nous irons partout en ambassade. Pour l'instant, en effet, quand nous allons à Sparte sobres, nous voyons aussitôt quel remous nous pouvons provoquer. Résultat, nous n'écoutons pas ce qu'on peut nous dire. Ce qu'on ne nous dit pas, nous le supposons, et nous faisons des rapports contradictoires là-dessus. Aujourd'hui, en revanche, tout nous agrée. Nous applaudissions, quitte à mentir.
Et comme dans toutes les bonnes comédies, tout finit par des chansons. Les Spartiates chantent dans leur dialecte, puis les Athéniens. Les hommes venus de Sparte et d'Athènes sont priés de repartir avec leurs épouses et de rentrer chez eux, où le devoir pourra enfin être accompli. Puis la pièce se clôt sur un chant spartiate, alors qu'on est à Athènes. On ne pouvait pas faire mieux en matière d'ouverture. Les femmes ont gagné, la guerre est finie, même si les spectateurs ne se font pas d'illusions. À peine sortis du théâtre, ils devront se mettre en état de guerre, les hommes reprendront les armes. Mais au moins, on a pu vivre hors de la guerre pendant un temps. La comédie a accompli un tour de force. Elle n'a pas assommé le public avec un discours pontifiant, autoritaire, disant aux gens ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser. Ce n'est pas son style. Elle n'a pas voulu corriger l'image caricaturale des femmes que le machisme habituel des Grecs se plaît à reproduire. Les femmes sont rusées, fourbes et branchées sur les plaisirs de la chair, sans retenue. Les héroïnes de la pièce, les Istrata, ne sont pas des héroïnes de vertu. La comédie n'a pas voulu critiquer la passion partagée des hommes et des femmes pour l'amour, le vin et les festins. Le raisonnement de Lysistrata est très simple. Les hommes méprisent les femmes. Ils ne les laissent pas parler. Ils ne tiennent pas compte d'elles, de ce qu'elles pensent et savent faire. La guerre, la politique sont une affaire sérieuse et donc uniquement une affaire d'hommes, pensent-ils. Mais ces mêmes hommes ne peuvent faire la guerre que parce qu'ils font l'amour. Parce qu'ils savent qu'ils auront toujours leurs femmes à leur disposition pour satisfaire leurs désirs. Les Istrata démontrent que les hommes, malgré leur orgueil, malgré leur sentiment de supériorité, dépendent entièrement des femmes, de leur amour. La preuve, si on les prive brutalement de cet amour, ils sont obsédés et ne peuvent strictement plus rien faire, et en tout cas pas la guerre. Ils trépignent, ils sont impuissants, ils finissent par faire la paix. Les hommes font les fiers en brandissant des mots d'ordre, nobles, élevés, en se gargarisant de patriotisme, de bravoure, de compétence, alors qu'ils n'ont qu'une idée en tête, satisfaire leurs pulsions de base. La comédie met spectaculairement en scène leurs envies les plus communes, les plus concrètes. C'est comme ça qu'elle ouvre la perspective d'une paix durable. Si les gens veulent vivre tranquillement ces pulsions de tous les jours banales et laisser la vie suivre son cours, il leur faut combattre tous ceux qui prétendent parler à leur place, et penser pour eux et leur impose des mots d'ordre auxquels ils ne croient même pas. Du populisme? De la démagogie? Non. Simplement l'idée que la politique, la vraie, celle du bien commun, celle qui respecte tous les aspects de la vie, ne se fait pas d'en haut, de loin. Si on n'écoute pas les femmes en politique, c'est peut-être qu'elles savent par expérience dire quelque chose sur ce que cela veut dire, la vie commune.
que les femmes font la grève du sexe au Kenya. C'est un thème vieux comme le monde, comme dans une pièce fameuse d'Aristophane. Cette fois, c'est un mouvement qui se veut politique, organisé. Les femmes refusent tout rapport sexuel tant que les politiciens n'agiront pas contre la pauvreté au lieu de se déchirer au sommet de l'État.
Les femmes kenyanes ne sont pas contentes de la situation politique de leur pays. Elles ont pris l'initiative.
Nous nous sommes demandé quel est le plus petit dénominateur commun entre classes, tribus, associations, entre tous, et nous avons décidé qu'un boycott sexuel était la meilleure manière de discuter du leadership et des réformes que nous voulons pour le pays.
Quand les dieux rôdaient sur la terre, Pierre Judet de Lacombe.
Cette émission a été réalisée par Xavier Pestugia. Les archives sonores ont été choisies par Claire Tesser. Les textes ont été lus par Yaël El-Haddad et Laurent Stocker, avec la voix d'Andrea Lechen. La programmation musicale est de Thierry Dupin. La prise de son a été assurée par Guillaume Ledu et le mixage par Pierrick Charles. La semaine prochaine, nous assisterons à un vol qui nous permet de vivre encore aujourd'hui, le vol du feu par Prométhée.